ce que ferai-je sans toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous sommes disposés à t'écouter. C'est toi qui viens de nous appeler dans ta présence ce matin. Et nous sommes là, Seigneur, afin que tu nous orientes encore par ta parole. Et selon ta volonté. Bénis-nous, Seigneur, et sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes dans un même livre, l'Évangile selon Luc, le chapitre 1er. Nous commençons la lecture au verset 5 et nous irons jusqu'au verset 20. Nous allons lire le chapitre 2, le verset 36 à 38. Évangile selon Luc, chapitre 1er, le verset 5 jusqu'à 20. Le chapitre 2 aussi, verset 36 jusqu'à 38. Je commence la lecture avec Luc 1, 5 à 20. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors à prier à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'éteint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras mieux et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. » Le chapitre 2, le verset 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons parler du thème intitulé « Quand Dieu ne te donne pas ce que tu veux ». Quand Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Nous allons nous rappeler que ce mois de juin, nous avons ou nous sommes en train de décortiquer le thème général, le mode de vie des hommes et des femmes intègres et fidèles à Dieu. C'est le thème du mois que nous sommes en train de suivre dans nos cellules et même ici à l'église. Dans notre vie de chaque jour, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes des enfants de Dieu. Nous prions Dieu, nous travaillons pour Dieu, nous le servons peut-être comme il veut. Mais à un moment donné, nous voulons quand même quelque chose de retour de notre Dieu. Mais nous pouvons constater que le Seigneur, notre Dieu, il ne nous donne pas ce que nous voulons. Il ne nous donne pas ce que nous voulons. Et peut-être cela peut créer en nous un cœur aigri, un cœur révolté, un cœur insensible à la parole de Dieu, parce que nous avons vu qu'il ne répond pas à nos requêtes, ou il ne nous donne pas ce que nous voulons. Alors, les textes que nous venons de lire, deux textes que nous avons lus, le premier texte parle de la naissance de Jean le Baptiste. Le deuxième texte, c'est un extrait du récit qui parle de la présentation de l'enfant Jésus au temple. La présentation de l'enfant Jésus au temple. Ces textes parlent de plusieurs personnages. Nous allons seulement parler de deux personnages. Deux personnages ont attiré notre attention dans ces deux textes. Dans le premier texte, le premier personnage, c'est le couple de Zacharie. Zacharie et Élisabeth, c'est le premier personnage. Le deuxième texte nous parle d'un autre personnage qui est la prophétesse Anne. Souvenons-nous, ou peut-être pour notre information, le nom Zacharie signifie Yahweh se souvient. Yahweh se souvient, c'est Zacharie. Élisabeth signifie serment de Dieu. Serment de Dieu. C'est-à-dire le couple Zacharie-Élisabeth signifie Dieu se souvient de son serment. Et Anne c'est la grâce. Signifie la grâce. Alors, le texte, nous commençons par le premier personnage, qui est le couple de Zacharie. Après, nous allons parler du deuxième personnage, qui est Anne. Et chaque personnage va nous donner des leçons à suivre. Et après, peut-être, nous allons entrer dans notre vie de chaque jour et comment nous comporter lorsque le Seigneur n'a pas répondu tel que nous avons voulu, nous, les hommes. Nous venons de lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 1er, le verset 5 à 20. Comme je l'ai dit, ce texte parle de la naissance de Jean le Baptiste. Mais cette naissance qui vient d'un couple stérile, un couple qui ne donne pas d'enfants, un couple qui a perdu l'espoir d'avoir des enfants parce que le temps est déjà dépassé. Ils sont devenus vieux. Zacharie, malgré cet état, la Bible dit qu'il était juste avec son épouse, les deux étaient justes devant Dieu et ils observaient les commandements de Dieu. Zacharie était sacrificateur, celui qui a le rôle d'apporter le besoin du peuple devant Dieu, afin que Dieu réponde à ce peuple. Il a aussi un besoin qui n'a jamais été répondu. Mais cela ne le pousse pas à ne pas observer les ordonnances de Dieu. Il continue à travailler fidèlement pour Dieu, malgré son état de ne pas avoir d'enfant. Si vous avez bien lu avec moi, le texte a dit que lorsque le sort est tombé sur Zacharie, ce sort, celui d'aller en faire le sacrifice dans le temple, c'est en ce moment-là que l'ange de l'Éternel est venu à la rencontre de Zacharie et lui a parlé, lui a dit, ta femme t'ordonnera un enfant. Zacharie a posé une question. Comment le reconnaîtrai-je? Vous pouvez penser que c'est une simple question. Vous pouvez penser que vous avez parlé pour parler. Mais Dieu, quand il écoute cette question, il voit dans cette question une sorte de manque de foi dans Zacharie. Et pour cela, l'ange a quand même expliqué. L'ange a donné l'assurance que vous aurez un enfant. Mais Zacharie n'est pas resté impuni. Dieu a puni Zacharie à cause de cette question. Parce que la question traduisait un certain doute. Et Zacharie fut mieux. Tu ne vas plus parler jusqu'à ce que cet enfant va naître. Si vous continuez avec la lecture, Zacharie est devenu mieux. Et il avait parlé le jour où l'enfant était né, quand on l'avait présenté au temple, c'est-à-dire le huitième jour pour la circoncision, quand il disait, cet enfant sera appelé Jean. C'est à ce moment-là qu'il a parlé. Nous avons quatre petites leçons que nous pouvons tirer de cette vie de Zacharie. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré le fait qu'il semble, ou malgré le fait que Dieu semble ne pas répondre à ce que tu veux dans ton cœur, tu peux continuer à le servir. Le fait que Dieu ne répond pas à ce que tu as demandé n'est pas une raison valable pour toi de ne pas le servir là où il veut te voir le servir. La deuxième leçon que nous pouvons trouver, c'est que le Seigneur se souvient de son serment à notre faveur et même pour notre génération future. Si vous lisez le verset 72 jusqu'à 74, lorsque l'enfant Jean le Baptiste est né, et quand Zacharie a commencé à parler, Zacharie a fait un psaume, Zacharie a chanté, et c'est là où il a repris la signification de son nom et la signification du nom de son épouse. Il a confessé en disant que le Seigneur se souvenu du serment qu'il avait fait à ses pères. Et ce serment, il avait fait à ses pères, à son père Abraham et à toute sa descendance. C'est-à-dire, le serment que Dieu avait fait à Abraham se réalise dans la vie de Zacharie et son épouse. Il est possible que le Seigneur fasse un serment pour votre vie aujourd'hui, mais sa réalisation peut être après la cinquième ou dixième génération. Lorsque nous prions Dieu, nous voulons que lorsque nous venons de dire « Amen », que lorsque nous venons d'ouvrir nos yeux, que nous voyons directement la réponse de Dieu. Mais Dieu ne travaille pas comme ça parce qu'il a son temps. Zacharie a vu ça. Ce que je vois maintenant, c'est la réalisation de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Abraham n'était plus là. Plusieurs générations après, Abraham n'était plus là. Peut-être aujourd'hui tu es en train de vivre les serments que Dieu avait donnés à ton arrière-arrière-arrière-grand-parent. Il est possible que Dieu aussi te donne une promesse aujourd'hui que tes petits-petits-petits-petits-petits-petits-fils devront voir et vivre quand tu ne seras plus là. Une autre petite leçon dans cette vie de Zacharie est que nous ne sommes pas valorisés par Dieu à partir de ce que nous produisons aux hommes. Vous savez, ce que nous produisons aux hommes, ce sont les enfants. Nous produisons des enfants, nous produisons une bonne vie, nous produisons... Nous pouvons donner tout ce dont les hommes et les femmes ont besoin ici sur terre. Mais ce n'est pas à cause de tout ça que le Seigneur nous valorise, mais c'est à cause de ce que nous sommes devant Dieu qu'il nous valorise. Qui es-tu devant Dieu pour qu'il te valorise? Le Seigneur n'a pas besoin de ce que tu as pour qu'il te valorise, mais il a besoin de ce que tu es devant lui pour qu'il te valorise. Malgré cet état, le Seigneur a utilisé Zacharie dans ce temple et il l'a valorisé. Il était sacrificateur et tout le monde avait honneur devant Zacharie. Ah, c'est différent de ce que nous passons. Il suffit que tu te maries dans une famille ici et que tu fasses 6 mois, 1 année, sans que tu n'aies pas encore d'enfant. Les gens vont commencer à ne plus te valoriser dans la famille. Nous devons adopter le comportement de Dieu qui nous valorise à cause de ce que nous sommes, mais pas à cause de ce que nous pouvons donner. Et c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois confesser si tu as déjà dévalorisé quelqu'un dans ta famille parce qu'il n'a pas été capable de te donner quelque chose. Mais valorise la personne par rapport à ce que cette personne est, la quintessence de la personne, l'essence même, l'être de la personne.
C'est ce que Dieu regarde et c'est ce qu'il voit. Être intègre et juste, c'est ça ce que Dieu regarde dans notre vie. Une autre leçon, c'est que Dieu exécute son plan pour toi à partir de là où tu le sers fidèlement. Zacharie avait déjà, il était vieux, avancé en âge avec son épouse. Il servait Dieu dans le temple. Et c'est dans le temple où le Seigneur l'a rencontré et a exécuté son plan. C'est-à-dire, tu dois savoir et avoir le discernement. Où est-ce que Dieu me veut pour que lorsque il fera son plan, il fera exécuter son plan, qu'il m'y trouve étant intègre, étant juste et qu'il exécute son plan. Où est-ce que tu vas pour aller exécuter le plan ou tes plans? Est-ce que là où tu es, là où tu vas souvent, es-tu sûr que si l'Éternel te rencontrer là, il peut être fier d'exécuter son plan dans ta vie, là où tu es ou là où tu vas. Autre leçon, c'est une attention. Il est vrai que tu peux avoir un moment dans ta vie, tu veux quelque chose, tu pries à Dieu. Tu as beaucoup de temps, tu dépasses beaucoup de temps en priant Dieu, en démontrant à Dieu ce que tu veux. Mais tu murmures, tu as des plaintes devant Dieu. La vie de Zacharie et la punition qu'il a reçue montrent que Dieu peut te priver d'une chose, il peut te priver d'une chose expressément. Mais quand tu te lamentes parce qu'il ne t'a pas donné cette chose, c'est même Dieu-là qui t'a privé de cette chose, il va te punir parce que tu t'es lamenté qu'il ne te l'a pas donné. Qu'est-ce que tu n'as jamais trouvé jusqu'à maintenant? Et quelle est ta position devant Dieu? Lorsque nous prions ou lorsque tu pries, est-ce que dans ta prière, tu n'as jamais dit « Mungu marahio, ne me choka kukwambia ijam » Ne soyez pas surpris si le Seigneur vous dit « Tu ne vas plus parler pendant 9 mois. » Parce que tu penses que, à disant ça, tu vas me forcer de faire ma volonté. Alors que moi, je fais ma volonté et pas ta volonté dans ta vie. Et donc, nous devons toujours faire attention. Lorsque nous demandons à Dieu, Seigneur, montre-nous un signe que réellement ce que tu dis va s'accomplir. C'est vrai. Abraham avait demandé à Dieu, montre-moi un signe. Dieu n'avait pas mal compris Abraham. Il a donné. Gédéon, dans les livres des juges, il avait aussi dit à Dieu, montre-moi un signe que tu seras avec moi et que tu es réellement le Dieu. Il n'avait pas mal compris. Mais quand ça arrive chez Zacharie, Dieu comprend mal. Donc, quelque chose peut être bien compris ici et mal compris là. Donc, tu n'as pas besoin de voir ce que fait l'autre devant Dieu pour que tu prennes cela comme ton propre modèle. Sois ton propre modèle devant Dieu. Deuxième personnage, c'est Anne. Anne, la Bible dit que nous avons lu. Et là, j'ai dit que le texte-là a été tiré du récit qui parle de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Le 8e jour, ça c'est la culture des Juifs, le 8e jour, c'est ce que Dieu leur avait ordonné. L'enfant mâle, quand il est né, le 8e jour, vous l'amenez au temple pour qu'il soit circoncis et qu'il soit nommé. Alors l'enfant Jésus et ses parents sont venus au temple. Il y a trouvé un homme qui s'appelle Siméon. On n'a pas lu ce verset, mais nous avons lu le verset qui parle de Anne la prophétesse. Anne la prophétesse, la Bible a dit qu'elle était veuve. Dès son jeune âge, elle était veuve. Elle est devenue veuve seulement après 7 ans de son mariage. Et pendant les 7 ans, elle n'avait pas aussi d'enfant. À l'avènement de Jésus, quand Jésus vient de naître, elle a 84 ans. C'est-à-dire, si nous supposons qu'elle s'est mariée à l'âge de 18 ans, et elle a fait 7 ans avec son mari, c'est-à-dire elle est devenue veuve à 25 ans. Elle avait 25 ans quand elle est devenue veuve. Et quand Jésus arrive, elle a 84 ans, c'est-à-dire elle a fait 59 ans de veuvage. 59 ans de veuvage. Mais la parole de Dieu dit qu'elle était prophétesse qui attendait la venue de Jésus. Dans son état de veuvage, est trop jeune de surcroît, 25 ans, s'il vous plaît. Elle ne s'est pas repliée vers les hommes pour que ces hommes lui donnent ce qu'elle veut, mais elle s'est repliée vers Dieu dans son sept angles. Elle s'est repliée vers Dieu dans son sept angles. Et lorsque la Bible dit que jour et nuit, elle faisait des jeûnes et de prières afin qu'elle puisse voir la venue de Christ. Mais Christ vient et elle a eu la grâce. C'est-à-dire, la venue de Christ, c'est l'exaucement de ses prières qu'elle faisait jour et nuit dans la présence de Dieu pendant beaucoup d'années. Si c'est à partir de son état de veuvage qu'elle est devenue prophétesse et qu'elle est allée devant Dieu dans son sept temple, cela signifie qu'elle a fait 59 ans en train de prier que le salut vienne. 59 ans, tu pries, et après 59 ans, la réponse arrive. Quelle assurance, quelle espérance, quelle endurance. La Bible ne dit pas qu'à un moment donné, elle était fatiguée. Elle est allée toujours de l'avant. Et c'est pourquoi elle a loué le Seigneur. Et la Bible a dit qu'elle a commencé aussi à proclamer la bonne nouvelle à tous les autres qui étaient dans son entourage. Le problème qui te trouble là vient de faire combien de temps? D'abord, tu as quel âge? Pour que ce problème, parce que ici, 59 ans de veuvage, de prière, la réponse vient après 59 ans. Si quelqu'un a 59 ans ici, c'est qu'il est dans le troisième âge. Dans le troisième âge. Et toi, tu as 25 ans. Ou tu as 40 ans aujourd'hui. Tu as 50 ans. C'est-à-dire le problème qui t'amène à ne pas respecter la loi de Dieu n'a pas encore fait 59 ans de cette veuve qui s'appelle Anne. Mais le Seigneur s'est souvenu d'elle parce que le Seigneur repose à son temps. Quelles sont les leçons, 3 petites leçons que nous pouvons trouver dans la vie de ce personnage? Peu importe ton état, tu peux même être méprisable dans la société. Le Seigneur est prêt à t'accueillir dans sa présence, te valoriser et perpétuer ton histoire. La veuve ici, avant que son mari ne meure, on ne la connaissait pas. Quand elle est devenue veuve, elle s'est repliée vers Dieu. Et Dieu l'a acceptée. Dieu l'a accueilli dans sa présence, Dieu l'a valorisé Elle est devenue prophétesse. Dieu a perpétué son histoire. Et c'est pourquoi, 2000 ans après, aujourd'hui, nous pouvons parler d'elle. Si tu veux qu'on parle de toi, 1000 ans après, autant d'années après ton départ, replie-toi vers Dieu, il va te valoriser. Il va perpétuer ton histoire parce que tu t'es replié vers lui, celui qui tient entre ses mains ta vie. La deuxième leçon, c'est que servir Dieu demande une consécration et un abandon des choses de ce monde. La fois passée ou le dimanche passé, nous avons appris sur le dos de soi au modèle de Ruth. Tu abandonnes tout ce que tu peux avoir comme richesse, tout ce que tu peux avoir comme réponse à tous tes besoins, mais tu te consacres totalement à Dieu. Tu t'abandonnes à lui. Cette femme qui a été veuve dès son jeune âge, elle s'est repliée à Dieu. Elle a prié Dieu, elle s'est consacrée au service de Dieu. Si vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32 à 35, la parole de Dieu dit, Paul dit, que les célibataires servent Dieu pleinement que les mariés. N'aie pas peur si l'Éternel te dit de ne pas te marier pour le servir. La volonté du Seigneur peut être celle de dire, tu vas rester célibataire pour toute la vie afin que tu me serves sans qu'il y ait des choses qui vont te tirer par-ci, par-là. Paul lui-même, il était célibataire. Si vous voyez de près, il n'a pas été parmi les 12 disciples de Christ, mais les œuvres des disciples, l'expansion de l'Évangile, il a été celui qui est allé très loin que même les disciples. Pourquoi? Parce que les Pierre, les André, les autres avaient des femmes et des enfants qu'ils ne pouvaient pas laisser pour aller prêcher l'Évangile. Mais Paul, il ne raisonnait pas pour ce qui est de ce qu'il va laisser derrière. Il part tout simplement, il part, il va prêcher l'Évangile. Qu'il fasse une année, deux ans, trois ans, personne ne lui dira, mais tu nous as abandonnés ici. Il a prêché l'Évangile. Et d'ailleurs, parmi les épîtres, celui qui a écrit beaucoup d'épîtres, il n'y a que deux épîtres de Pierre, celui qui parlait beaucoup à présence de Jésus. Paul, qui n'était pas là, il a écrit presque toutes les épîtres, épîtres de Paul, épîtres de Paul, parce qu'il avait le temps. Il avait encore le temps. C'est-à-dire, servir Dieu, c'est la consécration. Cette femme s'est consacrée à Dieu. Et l'Éternel se souvenir d'elle. Une autre leçon que nous pouvons trouver, c'est que malgré une réponse tardive, demeurons toujours dans la présence de Dieu, car il agit à son temps, comme je l'ai dit. Dieu n'agit pas à notre temps, il agit à son temps. Seule sa volonté agit. Seule la volonté de Dieu agit. Tu as déjà prié. C'est toi seul qui connais ce qui te hante. C'est toi seul qui connais ceci ou cela. Mais tu dois savoir que c'est seule la volonté de Dieu qui agit. Et d'ailleurs, dans ta prière, tu dis, Seigneur, nous nous soumettons devant ta volonté. Que ta volonté soit faite. Mais quand Dieu fait sa volonté, tu n'es pas prêt à recevoir sa volonté. Parce que la volonté de Dieu peut être différente de notre volonté. Lui, il connaît ce dont nous avons besoin. Nous pouvons lui dire que nous avons besoin de souliers. Lui, il voit que non, vous avez seulement besoin d'une jupe. Quand il vous donne la jupe, c'est ce qu'il a voulu. Toi, tu as voulu des souliers. Et toi, tu auras des yeux sans foi qui croira que le Seigneur n'a jamais répondu à ta prière. Il a déjà répondu. Il a déjà répondu à ta prière. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour finir cette méditation de ce jour, il est vrai dans ta vie. Tu peux avoir l'impression que les choses ne marchent pas. Ou ce n'est pas l'impression, c'est réel que les choses ne marchent pas. Tout est bloqué dans la vie. Tu es chrétien. Tu es toujours en attente de l'accomplissement d'une promesse que Dieu t'a faite depuis des années. Parce que nous lisons souvent, ceux qui nous enseignent que pour aller de l'avant avec Dieu, lorsque nous prions, nous devons lire la Bible et reconnaître les promesses que Dieu nous a données dans la Bible. Et comme ça, quand nous prions, nous allons les rappeler, ces promesses. Tu connais ces promesses-là. Et tu les rappelles chaque jour. Mais jusqu'à maintenant, ça n'était pas. Tu as une parole de la Bible à laquelle tu crois. Mais vivre cette parole dans ta vie, pas possible. Peut-être tu as eu des visions dans ta vie, des rêves par rapport à ta vie personnelle, mais ça tarde à se manifester. Au niveau professionnel, par exemple, tu as peut-être une entreprise, tu essaies de monter une entreprise depuis un moment, mais ça ne marche pas. Tu vas d'échec en échec. Bon, du point de vue sentimental et relationnel, tu as été déçu à plusieurs reprises. Tu as une fille ou un garçon célibataire, déçu à plusieurs reprises. Tu restes toujours célibataire, le temps passe, ton âge avance, toujours pas d'engagement à l'horizon. Souviens-toi que l'âge de Zacharie aussi était avancé. Tu es marié. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais tu es marié, mais il n'y a jamais eu de bonheur, c'est le malheur. Du jour au lendemain. Oui, tu pensais que quand tu vas avoir un homme, il a quitté tout Sambamba. Malheureusement, ça devient le contraire. Et tu es chrétien, tu es toujours à l'église. Tu pries le Seigneur. Tu as déjà prié pour ton mari qu'il change. Tu as déjà prié pour ta femme qu'elle change. Mais ça n'était pas. Les choses ne bougent pas. Les choses vont de mal à pire. Peut-être que vous êtes même déjà séparés. Mais vous voulez encore la restauration. Mais ça n'était pas. Au niveau familial, vous rêvez agrandir votre famille pour pouvoir avoir des enfants. Mais compliqué, ça n'arrive pas. Il est aussi possible que tu aies besoin spécifique qui tarde à être satisfait malgré ta consécration à Dieu. Peut-être que tu as une maladie, tu as besoin d'une guérison physique. Au lieu que ton frère guérisse, tu pries pour lui, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu peux, il meurt. Ou bien toi, tu meurs. Alors que tu priais pour que tu puisses guérir. Mais vous devez savoir que cela ne doit pas nous amener à croire que le Seigneur n'est pas avec nous. Ah, vous savez, il y a souvent un adage que nous disons. Lorsque nous marchons ou nous sommes en voyage, lorsque nous arrivons sains et saufs, nous disons, le Seigneur a été à notre côté. Et s'il y a eu un accident, le Seigneur était où? Il était à quel côté? Quand les bandits arrivent dans la maison voisine, toi tu vas dire, nous bénissons le Seigneur, hein? Parce que les bandits sont arrivés là, mais basi tuliomba Mungu akatufunika. Et vous pensez que hakufunika na wale? Il a tout simplement permis que ça soit comme ça et que toi ça n'arrive pas chez toi. Mais il a été là. Même si tu es malade, tu as l'hypertension, tu as les cancers, tu as toutes les maladies que les médecins ont déjà déclarées incurables. Tu pries. Manani zote, vyumba vyote vya maombi, vous êtes déjà arrivés. mais ça n'étiez pas. Vous devez savoir que lorsque nous marchons avec Dieu, il y a des fois où nous marchons avec lui, avec le slogan de la guérison sans guérison. Guérison sans guérison, c'est l'espérance. La vie de l'espérance. Tu as le cancer, mais ta foi te dit que tu es guéri parce que tu as Jésus. Parce que Jésus est en toi, tu es guéri. Parce que c'est Jésus-là à qui tu as cru. Lui, il est capable que même lorsque tu vas mourir, il va maintenir ta vie dans la tombe. Il va maintenir ta vie. C'est ça la foi des chrétiens. Nous pouvons guérir sans guérir. Ou nous pouvons guérir complètement. Lorsque nous sommes malades, il y a deux sortes de guérison. Je peux guérir, je rentre à la maison, la malaria passe. Je peux guérir, je meurs et je n'aurai plus de malaria dans ma vie. Tout ça, c'est une sorte de guérison. Et on est guéri comme ça. Comme ça, on marche avec Dieu. Même si on a des problèmes, mais le Seigneur porte ces problèmes à nous. Tu as besoin de travail, chômage chronique, et tu as des besoins. Depuis un moment, tu cherches du boulot, tu envoies des CV partout. Même là où ton profil, c'est le seul qui remplit les conditions. Mais on te dit que tu n'as pas été retenu. Des refus toujours. Mais combien de fois nous avons prié pour la paix de ce pays? La cessation des hostilités, la guerre, ça fait des décennies et des décennies, nous prions. Mais ça n'était pas toujours jusque-là. Est-ce que cela signifie que le Seigneur n'est pas avec nous? Notre problème, nous les humains, c'est que nous voyons seulement ce que nous voulons voir. Mais nous ne voyons pas ce que Dieu veut voir ou ce qu'il veut produire dans notre vie. Et lorsque si tu te trouves dans l'un ou l'autre de ces cas que nous venons de citer ici, tu as l'impression de ne plus entendre clairement la voix de Dieu. Par rapport aux choses que Dieu t'avait pourtant dites, les choses que tu lis dans la Bible, pourquoi ça ne se réalise pas dans ta vie? Peut-être que ça existe dans la vie des autres. Quand quelqu'un, lui, il touche quelque part, c'est bénédiction sur bénédiction. Mais toi, quand tu y touches, basse vite en arabique, rien ne marche. Tu es tenté de tout remettre en question. Tenté de tout remettre en question. Et tu crois que Dieu t'a déjà oublié. Il est possible que tu le dises par la bouche. Mais il est aussi possible que tu le dises par ton cœur sans le dire. Mais toi, sachant que l'Éternel m'a déjà oublié. Vous doutez du caractère de l'amour de Dieu. Est-ce que réellement Dieu m'aime? Même les paroles auxquelles vous vous appuyez, « Seigneur, tu as dit ceci, Seigneur, tu as dit ceci », vous commencez à remettre ces paroles en question. Est-ce que réellement, c'est ça? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans une attente éternelle, dans une attente de quelque chose tarde à venir, les granges dans ta vie, à ce moment de longue attente, c'est ton cœur, les cœurs, car ces moments, ce sont des grandes tentations qui arrivent. Le cœur peut devenir partagé. Tu cherches plusieurs solutions de ta manière. Le cœur peut devenir amer, le cœur peut devenir aigri. Mais souviens-toi du proverbe 4:23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car de lui viennent les sources de la vie. Si tu permets à ton cœur de méditer des choses contrairement à la volonté de Dieu, le cœur, au lieu qu'il soit la source de la vie, le cœur sera la source de la mort. Le cœur sera la source de l'amertume. Le cœur sera la source de tout ce qui peut encore te détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que plusieurs n'ont pas gardé leur cœur, ils sont sortis de ces saisons de longue attente déçus. Ils deviennent incrédules. Ils ont perdu toute espérance. Et leurs cœurs sont devenus endurcis. Leurs cœurs sont insensibles à Dieu parce que Dieu semble avoir été incapable de subvenir à leurs besoins. Nous avons appris pendant les enseignements de la semaine du baptême où nous avons parlé de l'espérance. Le prédicateur nous avait dit « L'espérance, c'est l'aspect futur de la foi. » Là où nous ne voyons pas, là où nous allons, alors ce qui nous permet d'aller là où nous allons, ce qui nous permet d'affronter le futur sans peur, c'est l'espérance. Et donc, si tu perds ton espérance, malgré l'état dans lequel tu te trouves, si tu perds ton espérance, tu viens de perdre toute ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que lorsque nous passons par ces moments, sa volonté, c'est que nous puissions sortir de cette saison de longue attente étant sûrs de son amour. Savoir que réellement, le Seigneur nous aime. Il veut que nous puissions sortir de cette attente fort dans la foi. Il veut que nous puissions sortir de cette attente pleine d'espérance. Parce que Dieu veut bâtir des vertus solides en nous. Et les vertus solides en nous, c'est l'endurance et la persévérance. Nous voulons toujours que Dieu fasse ce que nous voulons. Lorsque nous voulons prier Dieu, nous prions Dieu qu'il fasse ce que nous voulons. Et d'ailleurs, ça se manifeste dans nos prières. Et il faut savoir que lorsque nous prions de cette manière-là, c'est à l'encontre de la volonté de Dieu. Bon, nous tous, nous le faisons. Moi-même, je l'ai fait. Et les autres aussi le font. Seigneur notre Dieu, nous voulons que la guerre finisse en RDC. Oui, vous voulez. Vous voulez. Mais lorsque vous exprimez ça en prière, il faut demander, pas vouloir. Il faut demander. Nenataka mungu ufanye hiki. C'est une manière d'obliger à Dieu de faire ce que toi tu veux et non ce que lui, il veut. Lorsque nous prions, il est possible que nous prions, Seigneur, nous refusons. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je refuse. Ça veut dire que tu viens de t'opposer à ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il faut demander à Dieu, Seigneur, je me présente devant toi. Je te demande, je te supplie. Mais quand tu dis tu refuses, et s'il le fait quand tu as déjà refusé, quelle sera maintenant la continuité de ta foi? Parce que souvent, nous arrivons dans des moments comme ça quand ça ne va plus. Vitubisha Ribika, Moutu Komusos Intensif, et bien Seigneur, nous refusons tout esprit de mort dans cette famille. Et après, Amen, la personne meurt. Comment tu continues à vivre ta foi? Savoir vivre la volonté de Dieu demande de l'humilité dans notre manière de parler à Dieu. Nous ne croyons pas à Dieu. Écoutez bien ceci. Nous ne croyons pas à Dieu à cause de ces choses matérielles qu'il a faites, de ces choses matérielles qu'il fait, ou de ces choses matérielles qu'il fera pour nous. Mais nous croyons en lui parce qu'il est Dieu, il est le maître de l'univers, il est l'auteur de notre vie et de notre salut. Et c'est pourquoi nous croyons à Dieu. Si tu crois à Dieu parce qu'il t'a donné des arachides, alors quand il ne va plus te les donner, tu ne vas plus croire à lui. Mais si tu crois à Dieu parce qu'il est Dieu, l'auteur de ton salut, à tout instant, il est toujours le Dieu de ton salut. Ça ne peut jamais changer. C'est immuable, c'est échangeable. Alors ta foi sera inébranlable. Parce que tu ne vois pas le matériel que le Seigneur te donne. Tu vois Dieu, celui qui te donne. Comme Dieu nous valorise par rapport à ce que nous sommes devant lui, dans son intégrité, dans notre justice, alors nous aussi nous croyons à lui comme il est Dieu, mais pas à cause de ce qu'il nous donne. Alors lorsque nous venons de croire en lui, il nous donne ce qu'il a à nous donner. Il nous donne ce qu'il a à nous donner. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne sera quitte devant la justice de Dieu, devant les jugements de Dieu, parce qu'il n'a pas réussi ce qu'il voulait. Mais nous serons quittes devant Dieu parce que nous avons une position de justice, une position intègre, une position de fidélité devant Dieu. Lorsque tu seras devant le trône du jugement de Dieu, il va te demander pourquoi tu ne m'as pas cru, bien pourquoi tu n'as pas fait ceci ou cela. Tu ne diras pas, Seigneur, tu ne m'avais pas donné ceci. Et j'étais en train de le rechercher pour avoir, c'est pourquoi je suis allé loin de ta volonté. Le Seigneur ne te dira pas, en tout cas, tu as raison. Il ne te le dira pas. Il a besoin de toi comme toi. Toi aussi, tu as besoin de Dieu comme Dieu. Pas de tout ce qu'il va te donner, mais de lui comme Dieu. Lui aussi n'a pas besoin de ce que nous pouvons donner ou produire. Pour les hommes, il a besoin de notre position devant lui. La justice, être fidèle en lui, être intègre à lui. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce qu'il veut. Parce qu'il se souvient toujours de son serment pour toi. Et ce serment peut être accompli de ton vivant ou il peut être accompli avec ta progéniture, toute la génération qui va venir avec toi. Parce que notre Dieu, il n'est pas seulement le Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Toi, tu es aujourd'hui, il a toujours demain entre ses mains et ta progéniture est aussi pour demain. Et donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter quand il ne te répond pas aujourd'hui parce que ta réponse, sûrement, elle viendra demain. Levons-nous pour la prière. Bienvenue à la chorale. Jésus te connaît, il sait tes problèmes, il connaît tes soucis, il sait ce que tu sens. Ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. Jésus te connaît. Jésus te connaît. Il sait tes problèmes. Il connaît tes soucis. Il sait ce que tu sens. Ne les cache pas, mais dis tout à Jésus.
Il est le seul.
Viendra
encore,
encore,
encore.
Et
je te prie d'ouvrir ta bouche et de demander à Dieu à t'aider à t'attacher à lui plutôt que de t'attacher sur ce qu'il peut te donner et t'attendre patiemment à lui qui est le souverain. L'Éternel a besoin de toi. L'Éternel, il ne t'abandonne pas. Il ne t'a pas délaissé. Mais il est toujours là. Oui, tu peux avoir l'impression qu'il t'a délaissé. Rien ne marche. Nous avons des problèmes de l'insécurité dans ce pays. La guerre qui ravage. Mais nous devons savoir que le Seigneur est là. Il est avec nous dans cet état. Et nous devons attendre patiemment à lui parce qu'il est le souverain. Et aucune personne ne peut le défier sur cette terre. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont orgueilleux et qui pensent que ce sont eux qui peuvent faire ceci ou cela. Ils ne peuvent pas défier Dieu. Fions-nous à Dieu, celui qui maîtrise notre vie, celui qui nous connaît, celui qui connaît nos problèmes. Il ne nous a pas abandonnés, mais prions aussi à Dieu de permettre que sa volonté se fasse dans notre vie.
Na upenda msalabahu nguvu zake zanipa kushi msalaba.
Oui, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Peu importe la tempête dans nos vies, peu importe la médiocrité de notre vie, mais nous nous confions à toi, Seigneur, toi qui es le maître de notre vie, toi qui agis avec nous selon ta volonté. Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous, Seigneur, à ne regarder que toi. Tu connais les pleurs de ces papas. Tu connais les pleurs de cette maman. Tu connais les pleurs de cette fille, de ce garçon. Tu connais, Seigneur, tous les troubles qui nous hantent, Seigneur. Mais toi, tu es au-dessus de tout. Rien ne peut égaler ta force. Seigneur, parle à nos cœurs afin que nous puissions voir ce que tu es pour nous et ne pas voir premièrement ce que tu vas faire pour nous. Permets que nous puissions te voir en premier et après tu vas faire de miracles et de prodiges dans notre vie. Permets-nous, Seigneur, d'être scotchés dans ta présence parce que nous avons besoin de toi. Et être scotché dans ta présence, c'est demeurer dans ta volonté partout où nous allons nous retrouver. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans la rue, dans la société, dans la famille, Seigneur, nous voulons être scotchés dans ta présence. Et en cela, Seigneur, subviens à nos besoins. Nous qui sommes tes enfants, subviens à nos besoins afin que nous continuions à témoigner devant le monde que tu es Dieu. Souviens-toi de cette femme qui pleure jour et nuit parce qu'elle n'a pas d'enfant. Seigneur, tu as agi pour d'autres malgré leur état de vieillesse. Tu as agi pour eux. Seigneur, nous prions afin que tu ouvres leur ventre, tu ouvres leurs entrailles afin qu'ils puissent allaiter aussi leurs enfants. Oui, Seigneur, tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour te bénir parce que tu es Dieu. Et que le monde sache que tu es ce Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit à son temps. Oui, nous voulons demeurer intègres et fidèles à toi. Seigneur, aide cette femme, aide ce papa. Seigneur, aide cette famille qui a besoin de se multiplier. Tu as dit, Seigneur, tu l'as dit. Et nous te le demandons, Seigneur, afin que tu le fasses et que nous puissions voir ta force agir dans nos vies. Que nous puissions voir ta volonté agir dans nos vies. Nous nous soumettons, Seigneur, à toi, afin que nous puissions te voir. Et nous savons que tu nous feras aussi voir tes actes miraculeux dans la vie de chacun de nous. Bénis-nous, Seigneur, car nous t'acclamons. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu mérites ces acclamations. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.